Alors je vais, disons qu'on peut à peu près un quart d'heure, 20 minutes de discussion. Oui, bien. Donc, demander s'il y a des demandes d'intervention, oui, Ronema. Oui, monsieur, oui.
Den Bezug, den Sie hergestellt haben zu der Lyrik Goethes aus der Sturm- und Drangzeit, besonders aus an Erinnerung an Schwager Korners Künstlers Morgenlied Willkommen und Abschied. Das hat mir sehr imponiert und darauf würde ich jetzt nicht näher eingehen, aber das war wirklich ein neuer Aspekt für mich. Und das Zweite, da möchte ich Ihnen ganz gelinde widersprechen. Aber da komme ich heute Nachmittag vielleicht noch zu. Den Punkt, den ich ganz grob ansprechen möchte, in Bezug auf Aristoteles und die Gedanken der Autonomie. Da möchte ich Ihnen diametral widersprechen, aber das würde zu weit führen, das jetzt auszuführen. Danke.
Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Fragen. Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben, auf diesen Punkt der Autonomie heute Morgen zurückzukommen. Vielleicht lassen wir das für heute Nachmittag, wenn Sie einverstanden sind. Ja? Und die andere Frage, auf die ich eigentlich mehr eingegangen bin, das ist eben dieser Bezug zur Lyrik der 70er Jahre. Was mir aufgefallen ist, ist die Wahl des Wortschatzes. Ja, die Wahl der Wörter, ist aufklärend, finde ich. Ja. Und die Art und Weise, also ganz technisch zu sprechen, die Art und Weise, wie eben wie der Diskurs, ja, sich bildet. Ja. Und in dem Fall der Lyrik der 70er Jahre führt das Nachdenken, die Erinnerung, also wie ich gesagt habe, die Arbeit, ja, zu einem Gedicht. Das heißt, es wird eine neue Form, neue Lieder heißt es, ja, es wird eine neue Form, künstlerische, dichterische, vielleicht mehr Form, erfunden, ja, während bei Tasso dieselbe Wortschatz, ja, dieselbe Semantik ganz anders manipuliert, würde ich sagen, von Goethe, ja, von dem Dramatiker wird, um zu zeigen, dass Tasso ein Dilettant ist. Und Dilettant, auf diese Dilettantismusfrage bin ich aufmerksam geworden, weil sie wichtig für Goethe ist. Ja. Und ich fand, dass der Vergleich zwischen der Lyrik der 70er Jahre und dem Drama Torquato Tasso, also die Einbettung desselben Wortschatzes in das Drama, in die dramatische Form, vielleicht aufklärend war für das Scheitern Tassos letzten Endes. Denn als Dichter scheitert er auch. Er findet ja diese neue Lyrik nicht. Und das Epos, das ist nicht mehr die Zeit für das Epos. Ich weiß nicht, ob es auf Ihre Frage antwortet. Also es war keine Frage. Danke.
Je voudrais revenir sur l'exposé de Sophie Picard pour y jeter peut-être quelques troubles, si je puis me permettre. Vous avez employé un terme qui est un peu le fil rouge de votre exposé, le terme de classicité, qui montre combien la question est complexe d'un point de vue allemand, puisque la langue allemande a un seul mot pour romantisme, c'est romantique. Elle en a déjà deux pour classicisme, classicismus et classique. Et voilà maintenant un terme, classicité. Alors, on pense immédiatement au fameux essai de Brecht, Einschüchterung durch Classicité. Et là, je trouve très bien que vous ayez montré au début la différence. Enfin, l'ambition de Goethe était en quelque sorte de créer une sorte d'horizontalité dans la chose, n'est-ce pas? Puisque l'État en Allemagne, ou plutôt les États, étaient très hostiles non seulement à la littérature, enfin à la littérature, mais même à la langue allemande. Hein, Robert Mender, le grand germaniste, disait: imaginez que Louis XIV ait imposé l'espagnol à la cour de Versailles. Ça aurait eu quelques conséquences sur la littérature française. Donc les élites politiques ne faisait jouer que du théâtre français en français. Il a fallu en fait attendre la fin du 19e siècle pour qu'en Allemagne, on impose une vision étatique du classicisme. Hein. Et quand on va à Weimar, on est frappé du fait que le Goethe-Schiller-Archiv, qui est le bâtiment le plus haut de la ville, a été construit sur le modèle du petit Trianon. Ça veut dire quand même quelque chose. Donc, ce classicisme d'Angon, en fait, est beaucoup plus récent. Hein. Et ce qui m'amuse toujours un petit peu, c'est que il y a une permanence depuis de... On s'en prend à Goethe. On s'en prend toujours à Goethe. Hein, dans des actions, quelquefois, un petit peu... En Allemagne, bien sûr. Hein, quelquefois, enfin, même souvent étranges. Hein, récemment, il y a eu... Vous qui connaissez bien Weimar, je ne sais pas si vous êtes au courant, et il y a eu une action féministe de jeunes artistes contre le Gartenhaus, n'est-ce pas, qui ont... C'était la petite maison où Goethe se retirait, où on l'a bombardé de papier toilette, n'est-ce pas, en disant que son poème Heine Rösslein était une forme de sexisme, n'est-ce pas, que c'était en fait la représentation d'un viol, etc. Bon, pourquoi pas, hein, la littérature peut s'interpréter. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment cette notion de classicité est un petit peu le fil rouge. Enfin, c'est comme ça que je comprends votre exposé et qui est un peu difficile à comprendre, pas pour des germanistes, connaissant en principe la littérature allemande, mais d'un point de vue français, c'est une notion que nous n'avons absolument pas, puisqu'on peut dire vraiment que Goethe, c'est sous l'Empire wilhelminien qu'il est devenu en quelque sorte, il a été décrété Virgile posthume de l'unité allemande, à son corps défendant, bien sûr. Voilà, c'était un simple complément sur ces trois termes, donc classique, classicisme, classicité.
Oui, merci. Effectivement, il y a une ambiguïté dans ces termes. Et en fait, l'ambiguïté dans ce cas-là, à mon avis, vient en fait justement de ce modèle du classicisme français, puisque le classicisme français s'appelle classicisme parce qu'il se réfère de manière productive à l'Antiquité. C'est une reprise des modèles anciens, notamment de l'Antiquité latine. Et en même temps, donc on a, c'est le sens du terme classicisme, hein, c'est vraiment la référence à l'Antiquité, et en même temps, cette période de la littérature et des arts français, on lui a donné un rôle, on lui a donné une fonction, celle de représenter un âge d'or, de représenter le sommet, en fait, de la littérature française. Et c'est ça que veut dire le terme de classique en allemand, donc effectivement qu'on n'a pas en français. Et moi, je suis assez contre, je dois dire, cette traduction Weimar à classique par le terme de classicisme de Weimar, puisque de classicisme en tant que tel, certes, il est présent dans certaines pièces, mais et dans certaines œuvres, notamment de Goethe, dans lesquelles il va utiliser les vers, les maîtres antiques, il va y avoir cette réception productive de Iphigénie, etc. Et on a effectivement cette mise en scène du classicisme, hein, avec, à mon avis, avec justement ces Hermès à l'antique, ce décor à l'antique au début. Mais dans Weimar à classique, ce qui est important, c'est ce que vous avez dit à la fin, c'est la fonction, le rôle qu'on a attribué à cette période d'être, là encore une fois, un sommet de la littérature allemande. Donc on l'a fait surtout a posteriori. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y avait quand même aussi une intention classique qui était bien présente chez les auteurs de cette époque-là. Donc l'intention d'être dans un avènement d'une grande littérature, de l'excellence, etc. Et voilà, donc je pense qu'effectivement, on a un problème de traduction. Et il nous manque effectivement le terme de classique en français. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de classicité dans mon texte, pour justement parler de cette intention. De cette intention d'obtenir la reconnaissance et de s'inscrire dans la durée. Ça éclaircit.
Merci. Oui, dans le dialogue franco-allemand, d'ailleurs, il y a une difficulté supplémentaire qui s'installe à propos de la notion de classicisme, c'est que la référence la plus présente en Allemagne est précisément architecturale, quand même, alors qu'en France, elle est plutôt littéraire. Et de ce point de vue-là, le début de la pièce avec Virgile représente quand même un cas, une certaine forme d'atypicité, je dirais, dans, la, dans les références classiques de l'époque, plus marquées généralement par Winckelmann. Et donc l'héritage architectural et sculptural. Il y a... Oui, vous vouliez dire quelque chose? Parce qu'il y a une intervention là-bas. Il y a une demande de...
Bonjour. Allô. Oui, j'ai effectivement deux questions. Tout d'abord, merci pour ces exposés. Madame Blondeau, j'ai particulièrement apprécié le parallèle entre le poète et l'homme. Et vous montrez... le drame et du poète et de l'homme dans la dimension de échec de la poésie de Tasso, pardon, de l'œuvre de Tasso et l'entrée dans la dimension de la folie, toujours pour Tasso. Alors, la folie de Tasso est très claire. Je n'ai aucun souci à la comprendre, si vous voulez. En revanche, je ne comprends pas ou j'aimerais bien avoir j'aimerais bien avoir quelques explications concernant effectivement l'échec de l'œuvre de Tasso, parce que je vois bien qu'à un moment donné il dit à Alphonse qu'il voudrait avoir Das Werk pour la modifier, mais je ne vois pas effectivement en quoi où vous considérez effectivement l'échec. Et ensuite, j'aurais juste une petite question pour Madame Bicard. Vous avez parlé de conception populaire de Léonore Saint-Vital. Vous avez dit que Léonore Saint-Vital revendique, entre guillemets, une forme d'indépendance et oui, d'indépendance de l'art. Et que cela s'oppose à la figure de Tasso, qui respecte les normes, alors que, dans la première partie de votre exposé, vous avez dit que Tasso propose un modèle horizontal qui, à la fois, s'oppose, enfin, qui s'oppose aux normes et à la classicité à la française. Donc, j'ai du mal, je vous avoue, juste à comprendre... Dans quelle mesure Tasso et Léonore Saint-Vital s'opposent alors que Tasso même s'éloigne de la norme, de la normalité? Je vous remercie.
Je vais essayer de répondre à la première question pour laquelle je vous remercie. Donc, je crois qu'on peut admettre que dans le drame, Tasso, le Tasso moderne, celui de Goethe, est encore l'auteur de la Jérusalem délivrée, enfin disons d'une épopée qui est citée et qu'il livre au duc qui, dans un acte d'allégeance. Donc. Et en l'état, elle est parfaitement acceptée par le duc et par la cour parce que l'un et l'autre, hein, l'une et l'autre, pensent qu'elle correspond ou parce qu'elle ne peut que correspondre à la normativité édictée par cette cour. Donc l'œuvre est reconnue déjà. De cette œuvre, il n'est plus question. Sauf à la fin, où Tasso, certes dans un moment difficile, on peut peut-être douter de sa sincérité. Pardon. Oui. C'est mieux comme ça ? Oui, pardon. Dans un moment où on peut douter en partie de sa sincérité, mais c'est quand même écrit par le dramaturge. Et j'accorde effectivement beaucoup d'importance au fait, et Sophie Picard l'a dit aussi, que Tasso n'a plus le droit de reprendre son œuvre, l'original conservé par le prince. Et je pense que le prince a peur, d'une part, qu'on lui envoie son poète, qu'on lui dérobe son poète de cour, qu'on lui envie déjà, et que peut-être le remaniement de l'œuvre dû au jugement des pairs, donc un jugement esthétique, entraîne des modifications que lui, le duc, n'accepterait pas, qui ne lui plairaient plus. Parce qu'il juge selon son bon plaisir, c'est très féodal. Bon. Ça, c'est la première chose. Et en même, donc, en plus, il s'agit d'une épopée, donc d'un chant collectif qui chante les valeurs d'une collectivité à laquelle l'auteur est censé adhérer. Et il n'est pas tant dans l'œuvre que Tasso n'adhère pas à ces valeurs. Il en est exclu, il est toujours der tatenlose Jüngling, il en est exclu. Il aimerait bien y participer, mais on l'en empêche. Il reproche au duc, de façon indirecte, je crois, de ne jamais tenir compte de son avis. Donc je pense que sur cette œuvre épique, dans la modernité de la deuxième partie du XVIIIe siècle, il y a une interrogation de Goethe. L'épopée n'est plus possible. Et s'il faut penser au modèle grec, par exemple l'Iliade, c'est pour ça que j'ai fait le lien avec certains poèmes des années 70, où l'Iliade, par exemple, était introduite dans le poème, c'est Künstler's Morgenlied. S'il faut faire ce lien, on peut remarquer que le nom d'Homère est cité par Tasso, je crois que c'est dans la vision dans la fontaine, dans son mythe de l'âge d'or, là où... Enfin, dans l'une des deux, non, le nom vient un peu comme, pardonnez-moi, comme un cheveu sur la soupe. Hein. Il a été question de Virgile et de l'Arioste, et tout d'un coup, Tasso amène Homère, et ça n'a pas de sens. Hein. C'est pourquoi je crois que cette épopée, elle n'advient pas. Alors maintenant, pour le lyrisme, c'est beaucoup plus facile, parce que là intervient le problème du dilettantisme. Quand Tasso demande, rêve pour lui, pour chanter son amour pour la princesse, d'avoir des Malers Pinsel, des Dichters Lippe, c'est parfaitement irréel. C'est un rêve, c'est un souhait, c'est dit au conditionnel. Hein, et c'est l'exacte antithèse du poème Künstler's Morgenlied, une nouvelle fois. Il n'est ni peintre, ni poète. Et c'est ce que Goethe appelle le dilettantisme et qu'il combat. Et je crois, je suis désolée, je vais me répéter, je crois que le dilettantisme, dans la pièce, qui est repris de Werther, bien sûr, dans la pièce, c'est l'impossibilité pour le jeune Tasso de mettre à la place des codes anciens qu'il estime obsolètes, un lyrisme nouveau, une écriture nouvelle ou un chant nouveau auquel il n'arrive pas. Je pense que dans la pièce, Tasso, échoue comme poète. Mais là, c'est là aussi qu'il s'oppose à Goethe. C'est que Goethe, à propos de son voyage en Italie, a dit que c'était une renaissance, non pas als Dichter, mais als Künstler. Et pourquoi ? Parce qu'il a réfléchi sur le plan esthétique, évidemment, élaboré des textes qui vont paraître dans les... 10 ans après, à peu près. Bon. Mais ils sont en gestation, la réflexion s'est instaurée, et pour lui, le Künstler est un agrandissement et un approfondissement du poète pur. C'est pourquoi le lyrisme de Tasso n'advient pas non plus. C'est des petites pièces très rococo. Et quand il dit « je me souhaite des Malers Pinsel », etc., il dit « disus est Lippe ». Donc il retombe dans le code anacréontique. Je ne sais pas si ça vous éclaire.
Oui, pour répondre du coup à la deuxième question. Pardon si je n'ai pas été claire, parce que je pense qu'on ne s'est effectivement pas compris. En fait, pour moi, la différence entre la conception de Léonore et celle de Tasso, donc c'est les deux dernières que j'ai présentées, c'est que pour Léonore, l'instance qui va permettre de définir le statut d'un auteur ou d'une œuvre, c'est die Menge, la foule, das Volk. Donc c'est en ça que je parle de popularité, c'est-à-dire que plus un auteur a de succès, que ça soit contemporain ou que ça soit 100 ans plus tard, puisque quand elle parle de Der Enkel, c'est aussi un personnage bien réel, ce sont des êtres humains, je l'ai dit, en chair et en os. Donc c'est ces personnes-là qui vont faire qu'un auteur dure ou ne dure pas. Donc c'est là l'instance de reconnaissance. Et chez Tasso, on a affaire en tout cas, dans les moments où il se réfère justement à Wissenschaft, Geschmack, et plus tard il va se référer à ce public d'experts à Rome, mis en place par les Gonzagues, c'est un jugement esthétique, comme le disait aussi Denise Blondeau, un jugement esthétique éclairé, un jugement de spécialiste. Donc en fait, c'est une conception qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Qui est-ce qui peut dire qu'un artiste est valable et qu'on peut le canoniser, le garder, soit effectivement vous écrivez un best-seller et vous vous inscrivez comme ça dans l'histoire littéraire, soit ce sont des institutions, des éminences qui vont dire ça, c'est valable. Donc pour moi, l'opposition, elle était là entre Léonore et Tasso, et je n'ai pas associé à Léonore l'idée d'indépendance de l'art. Enfin, j'espère que c'est plus clair ou...
Merci. D'autres interventions ? D'autres questions? Oui.
Madame Picard, das hat mir sehr gut gefallen, diese vier Konzeptionen. Ich fand das sehr klar und erhellend. Ein kleiner Einwand. Mir fehlt das Konfliktverhältnis dieser vier Positionen. Und mein Vorschlag wäre, dass Sie eine fünfte machen. Die fünfte ist, dass Goethe sicher sehr anders als der französische Klassizismus anfängt, den Auszug des Schriftstellers aus der Gesellschaft zu begreifen und zu beschreiben. Tassos Position ist ja nicht eine, die gesellschaftlich akzeptiert wäre. Es ist eher, dass Goethe die vollkommene Isolation einer solchen Position beschreibt. Ich würde also sagen, diese vier Konzeptionen, die sehr erhellend sind, die müsste man überhöhen, denn sonst hätte Goethe nur eine Diagnose dieses Feldes beschrieben. Da ist aber ein Punkt darüber und da beginnt eben die Geschichte, die deutsche, sehr deutsche Geschichte des Auszugs des Schriftstellers aus der Gesellschaft und das Verteidigen einer gesellschaftlich nicht akzeptierten Position.
Ja, danke. Tatsächlich war ich auch unzufrieden mit diesem Tatbestand, dass ja, es irgendwie offen bleibt und man das Gefühl hat, Goethe entscheidet nicht, fällt keine Entscheidung. Also ich werde mir das auf jeden Fall noch durch den Kopf gehen lassen. Wobei ich vielleicht das, was Sie jetzt beschrieben haben, diesen Auszug aus der Gesellschaft, der Rückzug aus der Gesellschaft, der ja vielleicht eine Art, das ist ja auch so eine Originalität, ja, das ist ja eine sehr starke Geste, es ist eine bei Tasso fast schon provokante Geste, also Denise Blondeau hat ja oftmals gesagt, das widerspricht eben dieser Harmonie, die da durch die feudale Ordnung repräsentiert wird. Und das würde ich dann, also für solche Figuren hat ja schon, gibt es ja auch schon einen Geschmack und hier würde ich auch wieder auf Leonore San Vitale hinweisen, die ja diese Originalität des Schriftstellers, dieses Außerordentliche schon auch wertschätzt. Und ja, also für mich ist halt Klassik wirklich ein Rezeptionsphänomen und deswegen nicht zu trennen von der Gesellschaft. Also ich würde sagen, von der Gesellschaft in allen ihren Facetten. Ja? Also es ist, wenn man von Klassik spricht, dann spricht man eben von einem Kunstwerk in seiner Funktion in der Gesellschaft und diese Funktion kann unterschiedlich sein. Insofern, ja, ich lasse es mir durch den Kopf gehen, aber ich bin irgendwie nicht sicher, dass das jetzt so die Lösung wäre oder es ist halt eine utopische Lösung, die dann zum Scheitern verurteilt wäre. Ja.
Ich glaube, dass wir jetzt eine erste Pause machen müssen. Man erinnert mich daran, dass Schwager Kronos auch hier herrscht, hier präsent ist. Und wir haben noch den ganzen Tag. Donc, nous interrompons jusqu'à un quart d'heure à peu près? Un quart d'heure.